Bonjour à tous, on vient de louer le Seigneur, amen, et on a rendu gloire à Dieu par notre louange, notre adoration, et c'était bon, amen. Et vous savez que c'est un désir les plus intimes de Dieu en fait, hein. C'est de, que son nom soit glorifié sur toute la terre. Et quand on lit la Genèse, on se rend compte que c'est l'Éternel qui a endurci le cœur de Pharaon, et des fois on voit que Dieu crée l'adversité en fait, pour une seule chose, pour un seul but, donner gloire à son nom. Et la Bible nous le dit, j'ai endurci le cœur de Pharaon, et j'ai envoyé une plaie, deux plaies, trois plaies, quatre plaies, cinq plaies, six plaies, jusqu'à 10 plaies. Et à chaque fois, je les ai envoyées, à chaque fois, parce que j'ai moi-même endurci le cœur de Pharaon. Et la finalité de tout ça, et le Seigneur le dit à la fin de cet épisode, c'est que j'ai fait ces choses pour que mon nom soit glorifié sur toute la terre, pour que dans les siècles à venir, on puisse raconter les merveilles de ce que j'ai fait, les prodiges que j'ai pu accomplir, pour que les peuples se tournent vers moi et glorifient mon nom. Et des fois, vous voyez, dans l'adversité, il y a un travail du Seigneur pour que son nom soit glorifié. Amen. Et je reprends ce que disait Jonathan, la pensée qu'il a eue. Je vous invite ce matin à déposer vos fardeaux, quels qu'ils soient. On a tous des saisons de vie, peut-être, certainement différentes, mais peut-être compliqué pour certains, plus ou moins compliqué pour certains. Et je vous invite vraiment à écouter ce que Dieu nous a dit ce matin. Déposez vos fardeaux, déposez-les, faites confiance. Et voyez au-delà de ce que vous voyez avec vos yeux physiques, voyez avec la vue de la foi, et voyez l'œuvre. Merci beaucoup. Merci Matt. Voyez l'œuvre que Dieu veut faire en vous, au travers de vous. Et Jésus dira, après l'épisode des plaies d'Égypte, Jésus lui-même dira, si je fais ces choses, en fait, si je fais tous ces miracles, si j'accomplis toutes ces choses, si je répands mon amour, si je propose le salut, c'est juste pour qu'il croit en moi. Donc Dieu aime que son nom soit reconnu, qu'il soit reconnu lui-même comme étant le seul et unique vrai Dieu. Amen. Il se complaît à cela et je crois que ce matin, on l'a fait. Ce n'est pas le sujet de mon message, ça aurait pu, mais ce n'est pas grave, je voulais le dire quand même. Ce matin, je vais revenir à des choses assez basiques, en fait. C'est pas, quand je dis basique, ce n'est pas péjoratif dans ma bouche. Ça ne veut pas dire que c'est pas utile ou c'est simple, mais des choses basiques dans le sens où c'est des bases, en fait. Des bases, donc des choses fondamentales. Il faut plus le prendre dans ce sens-là. Et je voulais vous parler, en fait, et le thème de mon message, c'est « Sous quelle loi ?» Vis-tu ta vie chrétienne? Sous quelle loi évolues-tu? Sous quelle loi tu t'appuies sur quelle loi en fait pour marcher avec le Seigneur jour après jour? Alors vous allez me dire pourquoi il y a plusieurs lois, il y a plusieurs. Ouais, oui, on va le découvrir. Il y a plusieurs lois en fait, et c'est à nous de décider sous quelle loi on veut marcher. Amen. On va ouvrir nos Bibles dans Galates chapitre 5, verset 1. Pour ceux qui ont des Bibles, moi j'ai retranscrit ma Bible sur papier, vous inquiétez pas. Mais je... Galates chapitre 5, verset 1. Et on lit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Amen. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Paul parle de la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Donc j'ai envie de relire ce verset en rajoutant ça, pour insister sur la liberté, cette liberté que Dieu nous offre, elle est glorieuse. Et donc si on le traduit comme ça, on peut le traduire, parce que c'est dans le même esprit. C'est pour la liberté glorieuse des enfants de Dieu que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. De quoi la liberté? De quoi Christ nous a affranchis en fait? On le voit dans Romains au chapitre 8, verset 2. « La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Donc en fait, c'est la loi de l'esprit qu'il a placée en nous qui nous affranchit de la loi du péché et de la mort. Il nous dit aussi, et il s'adresse là aux Corinthiens, c'est toujours Paul qui parle, et il dit « Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, amen, non de la lettre, mais de l'esprit. » Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. C'est au-delà de l'alliance du sang qui nous permet d'être lavé, nettoyé, purifié et qui nous permet de rentrer dans une nouvelle alliance, l'alliance de l'esprit. Amen. Et la question ce matin, je le répète, c'est sous quelle alliance vivons-nous? Sous quelle loi vivons-nous? Est-ce que on est resté sous la loi du péché et de la mort dans notre marche avec Christ? Ou est-ce que on fait toute confiance au Seigneur et on laisse grandir la vie de l'Esprit en nous et on marche selon l'Esprit de Dieu? Et honnêtement, je fais ce message parce que dimanche dernier, on a eu un culte spécial louange adoration et c'était un moment merveilleux pour ceux qui étaient là. Moi, j'ai kiffé ma louange, voilà, et voilà, je le dis. Et voilà. Et en même temps, j'étais attristé parce que j'ai ressenti que notre église, et l'église en général, hein, l'église avec un grand E, mais notre église aussi à Connect, et on est tous concernés, et on se regarde tous les uns les autres, mais on est tous concernés soi-même. Et quand je prêche, en fait, souvent je prêche pour moi-même, hein, je vous préviens, hein, je vais dire tu, mais ça veut dire c'est pour moi aussi, hein, quand je le dis aussi. On est tous concernés par ça, et je crois que ne nous laissons pas, il y a un warning dans le premier verset, demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Il y a un vrai warning de l'apôtre Paul. Pourquoi il y a ce warning? Parce qu'il a dû le voir, il a dû visiter les églises, il a vu qu'il y avait les gens retombaient après avoir reçu le Saint-Esprit, ils retombaient sous la loi, ils retombaient sous la loi du péché, de la chair. Et donc il y a un vrai warning que Dieu nous lance ce matin, et je fais ce warning à moi-même et à notre église et à l'église avec un grand E, l'église universelle. Alors on va regarder un peu quelles sont les origines de ces deux lois et comment elles ont été révélées, enfin ce qui s'est passé en fait. Donc la loi du péché, vous le savez tous, mais je pense que c'est important de le rappeler, la loi du péché ou alors la Bible parle aussi de la loi de la mort ou la loi de la chair, tout ça c'est corrélé. Son origine remonte au jardin d'Éden, vous savez, au moment de la chute, au moment où le Seigneur avait placé l'homme et la femme dans un jardin luxuriant, magnifique. Il avait mis deux arbres au centre du jardin, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il avait dit une seule recommandation, ne touchez pas aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bon, l'homme et la femme ont chuté, ont touché à ce fruit, et la conséquence a été que l'homme et la femme sont devenus mortels. D'immortels, ils sont passés à mortels. Et la conséquence a été que le péché est entré dans le monde. Avant ça, avant cet événement, il n'y avait pas de péché dans le jardin d'Éden, tout était parfait. Et à partir de là, en fait, vous lirez dans Genèse 3 un verset que j'avais jamais remarqué, mais qui est tellement important. Le Seigneur, en fait, s'est rendu compte que l'homme était devenu pécheur, et donc il a chassé du jardin d'Éden, pas dans le sens de le punir, hein, il n'a pas chassé pour le punir, mais il a chassé pour le préserver, parce que le Seigneur, vous le direz, c'est marqué, dit, l'Éternel dit, oh là là, maintenant qu'il a connaissance de la bien et du mal, maintenant qu'il est pécheur de nature pécheresse, si je le laisse dans le jardin d'Éden, et s'il touche à l'arbre de la vie, il va vivre éternellement dans le péché. Et donc il a sorti du jardin d'Éden pour éviter ça. Donc c'est pas une punition. C'est une protection et ça montre encore tout l'amour de Dieu qu'il a pour chacun d'entre nous. Et il a mis des chérubins, nous dit le texte, il a mis des chérubins à l'entrée du jardin d'Éden avec des épées flamboyantes pour préserver en fait l'accès à l'arbre de la vie qui n'était plus possible tant que l'homme restait mortel. Amen. Et donc les siècles ont passé et toutes les bonnes intentions de l'homme pour mener une vie honnête, avoir une bonne conduite, n'ont pas épargné le fait qu'à la fin, il meurt, en fait, et que le salaire du péché, en fait, c'est la mort. Et la loi de Moïse est intimement liée à la loi de la chair et du péché, puisque Dieu s'est choisi un peuple, le peuple hébreu. Moïse et l'Éternel se sont rendus compte que c'était un peuple au cou raide, un peuple rebelle. Et donc, il y a des lois qui ont été dictées, il y a des lois qui ont été établies pour, on va dire, cadrer en fait l'être humain, pour le cadrer, pour éviter qu'il fasse n'importe quoi. Mais malgré ça, ça a été insuffisant. Ça a été insuffisant. Et la loi du péché, en fait, et la loi de Moïse, c'est très lié. C'est la loi des sacrifices et des rites pour se rendre propre, pour se rendre pur. C'est le salut par les œuvres. C'est le salut du mérite, du devoir aussi, du cadre à respecter, des cases à cocher, du bien, pas bien, de l'apparence, de la morale, de la bonne action qui soulage ta conscience, mais qui n'apporte pas la vie. Quoi que tu fasses, même si tu es le meilleur des chrétiens, le plus beau en apparence, tu es mené à la mort, à cette époque-là, hein, je parlais à cette époque-là, hein, tu allais indubitablement vers la mort. Et donc c'est la loi, en fait, la loi du péché et de la chair, c'est la loi qui va de l'extérieur vers l'intérieur. C'est-à-dire que tout est basé sur ce que l'on montre, sur ce que l'on prouve, sur ce que l'on fait, et tout ça en fait crée en nous une attitude de compétition, de jaugeage, d'évaluation permanente qui souille notre intérieur. C'est la loi qui va de l'extérieur vers l'intérieur, mais qui souille notre intérieur. Et le plan divin de Dieu, ça a été en fait d'envoyer son fils Jésus-Christ, vous l'avez compris. Lui seul était capable de délivrer l'humanité de la mort éternelle. Lui seul était le plan divin de salut pour l'humanité. Et d'ailleurs, la boucle était bouclée, puisque quand Jésus est mort sur la croix du calvaire, il nous offre la vie éternelle. Donc l'homme est redevenu immortel à ce moment-là, ce qu'il avait perdu par la chute au jardin d'Éden. Et il nous est dit que le voile dans le temple s'est déchiré en deux, de haut en bas. Et donc il y a eu un accès nouveau au lieu très saint, à la vie abondante en Jésus-Christ. Et petit clin d'œil aussi, et pour boucler la boucle, c'est que sur ce voile-là, en fait, ce voile-là était de couleur bleue, il y avait du rouge, enfin Alexandre nous le dira mieux que ça, mais il y avait des chérubins en fait sur ce voile-là, qui veillaient au lieu trois fois saint dans le temple. Et ces chérubins, en fait, ont été vaincus par la mort de Christ à la croix. Donc la porte du jardin d'Éden, la porte du lieu très saint, a été réouverte. Ok ? Amen. Merci Jésus. Et donc, en fait, on se rend compte que la loi de la chair, elle a un seul but, et Dieu l'a permise, parce qu'on pourrait se dire, mais pourquoi Dieu a permis ça ? Pourquoi Dieu a permis ça ? C'était de montrer à l'humanité que malgré ses efforts, malgré ses bonnes œuvres, malgré tout ce qu'il pouvait mettre en place, malgré l'obéissance à des rites, malgré les sacrifices, rien ne pouvait le rendre immortel, à part le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Amen. Donc la loi de l'esprit, c'est la loi qui va de l'intérieur vers l'extérieur. Et petit clin d'œil au message de Michel il y a quelques mois qui avait parlé du royaume de Dieu qui est non pas parmi nous mais en nous, à l'intérieur de nous. Le Seigneur Jésus dira, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Amen. Donc la loi de l'esprit, elle est liée à l'abondance de la vie en Christ. Et quand on est rempli de l'esprit, des fleuves d'eau vive coulent de notre sein. Amen. Et on comprend en fait ce verset aussi qui dit « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices ». Moi, j'ai toujours aimé ce verset-là. Et je dis que quand Samuel a parlé et a annoncé ces choses, il a été vraiment inspiré, il a été prophétique. En fait, il a été prophétique sur le plan de salut de Christ, parce que finalement, on se rend compte que par la désobéissance, l'homme est devenu mortel. Et par l'obéissance à la voix de l'Esprit en soi, il redevient éternel. Amen. Donc l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Tout ce qui a été mis en place par la loi de Moïse pendant tous ces siècles, toutes ces années, en fait, ça n'a finalement servi qu'à montrer à l'humanité qu'il ne pouvait rien faire de par lui-même et de dépendre uniquement de Dieu. Et de... Alors, on peut se demander aussi ce que génèrent ces deux lois, en fait, la loi de la chair et la loi de l'esprit. Alors, tout simplement, la loi du péché, de la chair, produit la mort. Il n'y a pas d'autre alternative, on l'a déjà vu, j'en ai déjà parlé. Vous connaissez ces versets qui disent que le salaire du péché, c'est la mort. Et puis dans Romains 8, au verset 6, il nous dit « Car l'affection de la chair donne la mort, mais l'affection de l'esprit produit la vie et la paix. » Amen. Donc d'un côté, on a la loi du péché, de la chair qui produit la mort. Et malgré toutes les règles qu'on a pu établir, le résultat final, c'était la mort. Et d'un autre côté, on a la loi de la liberté qui apporte la vie, qui génère la vie, qui procure la vie en abondance. Jésus a dit « Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. » Ce n'est pas une vie, une petite vie, c'est une vie en abondance que Dieu nous promet. Amen. En fait, pour prendre un exemple, en fait, c'est que la loi de Moïse, la loi sous la chair, en fait, fait le diagnostic du mal. Elle révèle le péché, elle révèle l'état de pécheur, elle révèle en fait ton état d'impuissance face au péché, mais elle ne propose pas de solution. Donc en fait, c'est le diagnostic. La loi de la chair, la loi de Moïse, la loi du péché et de la mort, ça pose un diagnostic. Mais en fait, la loi qui apporte le remède, c'est la loi de l'esprit, parce que l'esprit de vie apporte donc la vie et la vie en abondance. Ce sont des lois qui sont radicalement opposé radicalement. Bon, vous connaissez ces textes, hein, Galates 5, 6, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc il y a une vraie opposition, en fait. Quand une loi dit blanc, l'autre dit noir. C'est vraiment ça. Et quand l'autre loi va dire noir, l'autre dira blanc. Et en fait, pour illustrer ça, en fait, c'est... Mais par contre, elles cohabitent. Elles cohabitent. On est dans un corps de chair. On n'a pas encore reçu nos corps célestes. Et à cause de cela, ces deux lois cohabitent en nous. Elles s'opposent entre nous. Et c'est tout le combat, en fait, qu'on a à mener face à ces deux lois qui s'opposent en nous. Elles sont opposées radicalement, mais la plus excellente, comme dit l'apôtre Paul, la loi la meilleure, c'est la loi de l'esprit, bien entendu. Pour vous donner un exemple, en fait, quand la loi de la chair, c'est la loi de la pesanteur, de la gravité. D'accord ? Elle nous pousse vers le bas, elle nous tire vers le bas, elle nous ramène à notre petitesse, à notre péché, à notre condition humaine. C'est la loi de la pesanteur. Et la loi de l'esprit, c'est la loi de la portance. C'est ce qui nous élève, c'est ce qui nous porte, c'est ce qui nous fait marcher plus haut que ce que l'on voit. Et en fait, un exemple tout simple, quand un avion décolle, en fait, un avion c'est hyper lourd. Vous imaginez le poids que pèse un... Je n'ai pas regardé, mais un avion c'est... je ne sais pas, quelqu'un sait combien ça pèse un avion ? Un Airbus 320, enfin, je ne sais pas, mais c'est très très lourd. Moi, j'ai jamais compris quand j'étais gamin, je ne sais pas vous les enfants, comment les avions pouvaient décoller en fait avec un tel poids. Et en fait, ça nous apprend ça, c'est que il y a deux lois en fait qui font que l'avion décolle. Enfin, il y a deux lois qui animent l'avion. Il y a d'abord la loi de la pesanteur, de la gravité, cette loi qui le tient au sol, qui le tient cloué au sol. Et ensuite, il y a la loi de l'aérodynamisme et de la portance qui est plus forte que la loi de la gravité, et parce qu'elle est plus forte que la loi de gravité, permet à l'avion de prendre son envol et de décoller. Et bien, dans notre vie chrétienne, c'est un peu ça, c'est un parallèle un peu simpliste, mais c'est un peu ça qu'il faut comprendre. On est constamment tiré par le bas, par notre nature humaine, notre nature pécheresse, et on est constamment poussé vers le haut par la loi de l'esprit qui habite en nous. Et en fait, cette loi de l'esprit est plus forte que la loi de la gravité, puisque l'avion a décollé. Amen. Paul dira « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». Là aussi, on voit que ces deux lois sont opposées. Parce qu'avant, sous la loi, en fait, il fallait s'attacher à une bonne conduite, il fallait rentrer dans des rites, il fallait faire des sacrifices, il fallait avoir une bonne image, il fallait ne plus pécher. Et à partir de là, on pouvait servir Dieu. Ben là, c'est tout l'inverse. La loi de l'esprit te dit « marche selon l'esprit » et tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Ce n'est pas écrit dans l'autre sens, frères et sœurs. Ce n'est pas écrit « n'accomplis pas les désirs de la chair et tu pourras marcher dans l'esprit ». C'est « marche dans l'esprit, selon l'esprit, et tu n'accompliras pas les désirs de la chair ». Je parle à ceux qui sont des fois dans des addictions, et je parle en connaissance de cause, je fais une aparté dans mon message. Moi, j'ai eu des addictions, comme beaucoup d'entre nous avons eu des addictions. Il faut qu'on se le dise, il faut qu'on soit honnête. Et je pense à une addiction que j'ai eue pendant longtemps, et encore, il n'y a pas très longtemps, l'alcool. En fait, moi, je suis né dans l'alcool. Mon père était alcoolique, toute sa famille était alcoolique. J'ai été conçu dans l'alcool. Je suis né dans l'alcool, j'ai vécu dans l'alcool. Et pour ceux qui me connaissent... J'ai aimé l'état d'ivresse. J'ai lutté contre ça toute ma vie parce que j'ai vu les conséquences que ça avait sur moi, sur ma famille, sur les gens qui m'entouraient, sur mes amis. Je sais ce que ça a produit. Et j'ai essayé de faire mieux, j'ai essayé de faire mon mieux. J'ai même fait des prières en disant « dégoûte-moi de ces choses ». Mais pourtant, c'était en contradiction avec moi-même parce que j'aime le vin, j'aime le goût du vin, j'aime le goût de l'alcool. Le problème, c'était l'abus, bien entendu, on est d'accord. On peut apprécier le vin, le problème, c'est l'abus. Et en fait, j'ai toujours lutté et j'ai jamais réussi. Et le jour où j'ai compris ce verset qui me disait « marche selon l'esprit et tu n'accompliras pas les désirs de la chair », j'ai pris les choses dans l'autre sens, en fait. Et j'ai décidé de revêtir la loi de l'esprit en moi et de la faire grandir. Et j'ai décidé de marcher selon l'esprit de Dieu, malgré ma nature humaine, malgré... Et petit à petit, ça n'a pas été instantané, mais petit à petit, le Seigneur m'a dégoûté en fait. Les soirées où j'avais trop bu le lendemain, c'était catastrophique, beaucoup plus que d'habitude. Donc en fait, petit à petit, quelque chose est né en moi en fait. Et petit à petit, le Seigneur m'a libéré, m'a délivré et m'a dégoûté de cette addiction. Parce que j'ai décidé d'abord de faire sa volonté. C'est une aparté, mais voilà. Qu'est-ce que Dieu nous recommande de faire, frères et sœurs? De rester sous la loi du péché, de la chair, ou de marcher dans la loi de l'esprit? Je pense que vous l'avez compris. Jésus déjà recommande à ses disciples d'être conduits par l'esprit. Il dira quand le Consolateur sera venu, l'esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Amen. Et même il rajoute à un autre endroit, il est préférable pour vous que je m'en aille, parce que quand je serai remonté auprès du Père, vous recevrez le Saint-Esprit et le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Donc déjà, Jésus lui-même nous demande de marcher selon l'Esprit. Ensuite, Paul nous demande de marcher selon l'Esprit. On l'a vu, c'était notre verset d'introduction. Marcher selon l'Esprit, Romains 8, 2. Marcher selon l'Esprit. Il y a d'autres versets, hein, Galates 5, 18. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Galates 5, 18, pardon, c'est celui-ci. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Et puis 1 Timothée 1, 9. La loi n'est pas faite pour le juste, mais pour le pécheur. Et ça, on le comprend tout à fait avec ce que je viens de dire et d'expliquer. C'est que finalement, la loi a été faite pour le pécheur, pour montrer au pécheur qu'il resterait pécheur toute sa vie s'il n'acceptait pas le plan salut de Dieu. Le plan de salut de Dieu. Et la marche chrétienne, frères et sœurs, est un combat entre la chair et l'esprit, dans lequel l'esprit doit prendre le dessus. Il a la capacité de prendre le dessus, mais à nous de faire grandir en fait ce que Dieu a placé en nous. Et c'est là en fait où je m'attends ce matin, c'est qu'est-ce qu'on fait en fait de cette loi de l'esprit que Dieu a planté en nous. La Bible dit que Christ vit en nous. C'est pas que des mots, c'est pas une image, c'est pas allégorique, c'est une réalité. Christ vit en nous. À partir du moment où nous sommes nés de nouveau, où nous sommes nés de l'Esprit, son Esprit, l'Esprit de Dieu, de Jésus est venu habiter en nous. C'est une réalité. Et donc il y a cette dualité entre ces deux lois, la loi de la chair et la loi de l'Esprit. Et qu'est-ce qu'on fait en fait? Comment on fait grandir ça? Alors, j'ai une illustration, en fait, ce matin, je vais parler un peu de ma vie. Moi, je travaille dans la santé, en fait, je travaille dans une société de biotech, en fait, et on met en place des thérapeutiques pour des cancers graves, rares, des cancers du sang, des leucémies, des lymphomes, et on met en place aussi des nouvelles thérapeutiques pour des patients désespérés, des cas désespérés. Et donc, dans mon boulot, en fait, Dieu m'a montré, en fait, quelle était ce qu'il avait prévu pour nous quand on se place sous la loi de l'esprit. Et je voulais vous en faire part, alors j'espère que je vais être clair et je vais essayer de vulgariser à fond mon discours. J'avais prévu des slides mais j'ai oublié de les envoyer, donc c'est dommage. Mais l'idée c'est en fait de se dire, ok, j'ai deux lois qui sont en moi, Seigneur Jésus, comme tu l'as dit, comme tu l'as dit à ton Père, il faut que tu croisses et que je diminue. Dans Jean chapitre 3, il faut que tu croisses et que je diminue. Et en fait, la vie chrétienne, c'est ça, c'est un processus en fait. C'est vraiment un processus quand, vous savez ce verset qui dit « Voici, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles ». En fait, le vrai texte, enfin le texte originel, ne dit pas « Toutes choses sont devenues nouvelles », mais c'est un présent progressif. « Toutes choses sont en train de devenir nouvelles ». Et c'est vraiment très, enfin, c'est des nuances qui sont hyper importantes parce que ça nous révèle des choses dans la compréhension de ce que Dieu veut faire avec nos vies. Si en fait je reçois Jésus en moi et que je suis ce verset à la lettre, j'estime que ça y est, tout a changé, tout est devenu nouveau. Mais non, toutes choses sont en train, vont arriver. C'est ça exactement ce qu'il est écrit. Et donc Donc moi, je travaille sur des thérapeutiques et une des thérapeutiques sur laquelle j'ai travaillé il y a quelques années, c'était l'allogreffe de cellules souches hématopoïétiques. Pardon, je vais... Grosso modo, c'est très... En fait, ça va être... je vais essayer d'être simple. Donc, je travaille dans les cancers du sang. Je ne sais pas s'il y a des médecins dans la salle ou des scientifiques ou des gens qui connaissent déjà le milieu. Ouais, ok. Donc, le sang, en fait, il est produit où ? Il est produit dans la moelle osseuse des os, d'accord ? Dans le sternum, les crétiliaques, les omoplates, dans tous les os, mais majoritairement dans certaines zones. Et donc, c'est là que, dans la moelle osseuse, que les cellules sanguines sont produites et ensuite sont déversées dans les vaisseaux pour aller irriguer le corps entier. Donc il y a trois lignées, il y a les globules blancs, grosso modo, hein, sans rentrer dans les détails, les globules blancs et puis les plaquettes. Et ces lignées-là sont produites à partir de cellules moelle osseuse. Elles sont produites à partir de cellules qui sont au début indifférenciées, c'est-à-dire des cellules qui sont neutres, et on appelle ça des cellules souches hématopoïétiques, qui ont la capacité de se développer soit dans la lignée globule rouge, soit dans la lignée globule blanc, soit dans la lignée plaquette. Ok, jusque-là, ça va. Ces cellules-là, elles sont dans notre moelle, et ensuite, elles se différencient, chacune, dans une des trois lignées, et elles partent dans les vaisseaux irriguer notre corps. Dans les pathologies du sang, en fait, quand une lignée est touchée, globule rouge, globule blanc ou plaquette, il y a des traitements qui fonctionnent, il y a des traitements qui marchent bien, on arrive à traiter les patients. Par contre, là où ça devient plus compliqué, c'est quand la cellule souche qui est indifférenciée, qui elle va se différencier dans les trois lignées, est touchée par la maladie, là c'est beaucoup plus compliqué. Et donc il y a une technique qui s'appelle l'allogreffe. Allo, c'est pour donneur, greffe, c'est pour greffe. En fait, on greffe de la moelle osseuse à un patient. On lui greffe pour renouveler en fait sa moelle osseuse, pour changer entièrement sa moelle osseuse. Son usine de fabrication en fait est mauvaise. Il y a un bug dans la chaîne de production. Donc on va changer totalement son usine de fabrication. On va changer sa moelle osseuse. D'accord ? Alors pour ça, il faut un donneur. Et donc il y a des registres avec des donneurs. Il y a des registres internationaux avec donneurs. Parce qu'il faut que les donneurs soient compatibles. C'est compliqué. Sinon, il y a un rejet de greffe. Sinon, c'est voué à l'échec. Et puis ensuite, donc le patient, une fois qu'il a trouvé un donneur compatible, il est greffé. Et ensuite, ce qui se joue, c'est le chimérisme en fait biologique, ce qu'on appelle, alors, une chimère, ça a plein de significations, hein. C'est à la fois un être monstrueux, si vous lisez le dictionnaire, ça peut être plein de choses, mais dans le langage biologique, une chimère, en fait, c'est quand un organisme, une entité, en fait, possède deux lignées génétiques différentes. Et là, en fait, un patient qui reçoit la moelle osseuse d'un donneur possède à ce moment-là, deux lignées différentes, sa propre lignée génétique et la lignée génétique de son donneur. D'accord ? Et en fait, l'enjeu des médecins, c'est qu'il faut que le chimérisme soit à 100% donneur. L'objectif, il faut que le chimérisme soit à 100% donneur au bout de 3 mois. C'est-à-dire qu'il faut que le greffon qui a été injecté grandisse, prenne sa place, ne soit pas rejeté, bien entendu, par l'organisme, grandisse, prenne sa place et devienne majoritaire à 100%. Ça, c'est l'objectif optimal. Ce n'est pas toujours le cas, bien entendu, mais quand on est au-dessus de 90%, on peut estimer que c'est déjà très bien pour le patient. Ok ? Et en fait, moi, je fais un parallèle avec ça et avec la vie chrétienne, et j'ai dit, mais Seigneur, c'est incroyable. En fait, faisons le parallèle avec la vie chrétienne. On a fait le diagnostic que la loi du péché nous condamnait. On est condamné. C'est comme si on était condamné par une maladie. On est condamné par le mal qui est en nous. On s'en rend compte, on fait le diagnostic, on pose le diagnostic, on s'est rendu compte. Ça, c'est la loi de Moïse qui nous a permis de poser le diagnostic. Nous sommes pécheurs, nous sommes condamnés à vie. Amen. Le plan de salut arrive. On a donné le donneur universel, celui qui est compatible avec tous, Jésus-Christ. Amen. Il vient, il est greffé en nous. Là, il n'y a pas de problème d'incompatibilité. Il est greffé en nous. Amen. Il est compatible 100%. C'est le meilleur des donneurs. C'est le meilleur des donneurs. Il n'y aura pas de rejet. Il n'y aura pas de rejet de greffe. Il est là, il est en nous. Par contre, il faut qu'il croisse et que je diminue. Amen. Et si on ne croit pas, et s'il ne croit pas, pardon, s'il ne croit pas, on ne peut pas parler de guérison. Vous savez que l'allogreffe de cellules souches hématopoïétiques est la seule technique où Certains médecins, alors ça aussi, il n'y a pas vraiment de consensus, mais certains médecins qui sont convaincus que c'est la meilleure des techniques disent qu'on peut parler de guérison. Quand un patient est en rémission au bout de 2-3 ans et que le greffon a pris toute la place, on peut parler réellement de guérison. Il n'y a plus de cellules cancéreuses résiduelles. Le patient est guéri, entièrement guéri. Et c'est ce que nous offre Jésus par son sacrifice à la croix. Et ce que Dieu veut, en fait, c'est qu'il grandisse en nous. C'est qu'il grandisse, c'est qu'il grandisse, c'est qu'il grandisse, c'est qu'il grandisse et que nous diminuons. Il veut que nous soyons des chrétiens à chimérisme 100% Saint-Esprit. 100% Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas une option, en fait, de marcher selon l'Esprit. C'est vital, parce que ça nous apporte la guérison, ça nous apporte la vie. Et en fait, ce que je pense, mais ça ne regarde que moi, mais ce que je ressens, c'est que trop souvent, on est resté attaché à l'œuvre de Christ à la croix, au tout accompli de la croix. On s'est contenté de la grâce de Dieu et on a loué Dieu et on adore Dieu pour sa grâce, pour ce qu'il a fait pour nous. Mais on ne va pas plus loin que ça. Et le greffon que Dieu a planté, parce qu'on est né de nouveau puisqu'on a reçu la grâce de Dieu, on a reçu Christ en nous, mais on ne va pas plus loin que ça. Et le greffon Jésus qu'on a reçu au fond de notre cœur, il ne se développe pas. Parce qu'on est resté figé sur l'œuvre de Christ à la croix et on n'a pas vu la dimension de la loi de l'esprit qu'il y avait derrière. Et en fait, quand Jésus a dit « tout est accompli », frères et sœurs, il a parlé pour lui. Ça voulait dire « moi, oui, moi j'ai tout accompli ». Il dira juste avant dans le jardin de Gethsémané, je me suis occupé, j'ai gardé ce que tu m'avais confié. Voilà, il a fait le bilan de ce qu'il avait fait auprès de son Père. Et quand il a dit « tout est accompli pour notre salut ». Amen. Ce qu'il a fait nous donne le salut. Mais ça ne veut pas dire que tout est fini. Le tout accompli de la croix, c'est un go en fait pour nous. C'est à nous d'accomplir maintenant. Nous avons reçu Christ en nous, à nous d'accomplir. En fait, on se rend compte que la loi de Moïse nous maintient en fait dans la pseudo-vie, en fait, parce qu'à la fin, on meurt quand même sous la loi de Moïse, mais préserve la vie, mais n'apporte pas. Et en fait, dans l'Église, trop souvent, on est ce que j'appelle des chrétiens moraux, c'est-à-dire qu'on a une bonne conduite, on a une bonne image, on fait attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, on fait attention, on s'auto-évalue, on est dans le devoir et on est dans le mérite et on est dans la reconnaissance. Et c'est bien, sur le papier, c'est bien. Les gens vont dire, « Ouais, lui, il a quelque chose, elle a quelque chose, c'est beau. » Mais en fait, ça ne suffit pas, frères et sœurs. Ça n'apporte pas la vie, ça la préserve. C'est le cadre que Dieu a donné dans la loi de Moïse pour préserver la vie un maximum, mais ça n'apporte pas la vie. Et des fois, tu te dis, mais moi, je ne pêche pas, ma vie, elle est propre, elle est clean, elle est nickel. Et tu peux marcher malgré tout, non pas sous la loi de l'esprit, mais sous la loi de la chair, parce que ton système de pensée fait que tu t'autorises pas ceci parce que tu te dis non, il faut que je fasse attention à ça, et tu vis dans la peur, dans la crainte, et tu marches en fait sous la loi de la chair, du péché. Et Dieu veut nous libérer de ça, en fait, des comparaisons, de ce qu'on voit, de l'auto-évaluation qu'on peut avoir sur nous-mêmes, du jugement qu'on peut porter sur les autres, sur nos frères et sœurs. Dieu veut nous libérer de ça. Quand on est comme ça, on marche encore trop, je dis pas qu'on marche pas selon l'esprit, mais encore trop sous la loi de la chair. Et les grands réformateurs l'ont compris. J'ai lu un bouquin que m'avaient offert Patrick et Catherine sur les grands réformateurs que j'ai dévoré. J'aime beaucoup l'histoire de l'Église. Mais je crois que Mathieu, tu dois le connaître parce que je sais que tu aimes beaucoup l'histoire de l'Église aussi. Et en fait, les grands réformateurs, tout simplement, ils ont commencé par réformer leur cœur, en fait, leur système de pensée. Et pour pouvoir réformer l'Église, en fait. Mais ça a commencé par l'intérieur, en fait. Par l'intérieur. Pourquoi les chrétiens restent sous la loi de la chair et n'arrivent pas à vivre sous la loi de l'esprit alors qu'ils ont reçu le greffon Jésus? Amen. J'ai identifié trois choses, il y en a plein certainement, mais le Saint-Esprit m'a conduit dans trois choses. À cause de la peur déjà. Parce que vivre selon l'Esprit de Dieu, c'est vivre l'inconnu. C'est vivre, c'est accepter d'aller vivre dans l'inconnu. La loi de l'Esprit, en fait, n'obéit pas à une règle qui est gravée sur des tablettes en pierre, comme était gravée la loi de Moïse, dans le marbre. Mais c'est l'aventure tous les jours. C'est une loi, en fait, qui est gravée dans nos cœurs. Jérémie disait, je mettrai ma loi au dos d'eux, je l'écrirai sur leur cœur et non plus sur des tables de marbre ou de calcaire. Et en fait, donc, il y a une notion de, on a peur, on n'a plus de cadre, on n'a plus le, attends, elle est où ma Bible, elle est où ? Non, la loi du Saint-Esprit, c'est tu marches selon l'Esprit. Et quand tu marches selon l'Esprit, c'est en accord avec ce que dit la Bible. Mais des fois, tu n'as même plus besoin de la Bible, en fait. C'est l'Esprit qui te dit, qui te communique des choses. Et en fait, Dieu a choisi les choses folles, des choses folles pour confondre les choses sages de ce monde. Et des fois, ça va créer de la peur en fait de marcher selon la loi de l'Esprit parce que ça va jouer sur ta réputation, ça va jouer sur ton image. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi ? Qu'est-ce que je vais faire ? Je prends un exemple que beaucoup connaissent ici, mais que j'aime beaucoup. Des fois, Dieu va vous demander, et il faut le savoir, en avoir conscience, de faire des choses complètement folles, irrationnelles, qui vont à l'encontre en fait du rationnel en fait, de tout ce qui est logique. Par exemple, je vais vous parler de l'exemple du poirier, mais vous connaissez beaucoup cette histoire. Un jour, il y a un homme, il arrive, un homme de Dieu, enfin un homme rempli de l'Esprit de Dieu. J'aime pas dire un homme de Dieu. On est tous hommes et femmes de Dieu, mais un homme qui s'était placé sous la loi de l'Esprit. Il arrive à une station essence et tout d'un coup il est saisi par l'esprit. L'esprit lui dit fais le poirier avant de mettre ton essence, fais le poirier là devant tout le monde. Et il a dit non. Et puis le Saint-Esprit est très, très insistant en lui. Donc il s'exécute, il fait le poirier, vous savez, c'est faire l'arbre droit, hein, c'est ça, c'est l'arbre droit. Il fait l'arbre droit là en pleine station essence devant tout le monde. Hop, il redescend, il fait son plein d'essence, genre personne ne m'a vu j'espère, mais j'ai obéi. Et je vais payer. Et donc, il entre dans la cahute pour payer. Et l'agent qui était là était en pleurs. Et il lui dit, mais qu'est-ce qui se passe, monsieur ? Et l'agent lui dit, écoutez, monsieur, il y a 5 minutes avant que vous arriviez, il y a un homme qui est venu, qui m'a prêché l'évangile, qui m'a dit, il faut que vous acceptiez Jésus. Et je l'ai jeté, je l'ai pourri. Je lui ai dit, sors de là. Je ne croirai à ton Dieu que le jour où je verrai un homme faire un poirier dans ma station essence. Voilà. Cet homme a été sauvé. Cet homme a cru en Dieu. Cet homme est placé de la loi de la mort à la loi de l'esprit. Cet homme a revêtu les vertus célestes. Cet homme est né de l'esprit. Amen. Parce qu'un homme a obéi à la voix de l'esprit qui était des choses folles. Regardez Jésus, quand il a guéri l'aveugle, il a craché par terre, il a fait de la boue avec ses doigts, et il les a appliqués sur les yeux de l'aveugle. Mais franchement, aujourd'hui, on ferait ça dans une réunion, là, comme ça. Honnêtement, qu'est-ce qui se passerait ? Jésus l'a fait, et ça a produit la vie, il y a eu la guérison. Et pour cet homme, de faire le poirier, ça a produit la vie chez le tenancier de la station-service. La vie est entrée dans sa maison et dans sa famille. Amen. Des fois, il y a des choses folles que le Saint-Esprit va nous demander de faire. La Bible dit que il y a des choses qu'on n'a point vues, en fait, que l'oreille n'a pas entendues, qui sont montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Corinthiens 2,9. Donc Dieu, le Saint-Esprit va nous amener en fait à la révélation de ces choses et va nous amener à faire des choses que l'œil n'a point encore vues, que l'oreille n'a point encore entendues. Et puis le Saint-Esprit a la capacité de nous enseigner à l'instant même ce qu'il faut faire ou dire. Dans Luc 12,12, en fait, il est dit que quand vous serez traînés dans les tribunaux, à l'instant même, je vous donnerai les paroles par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous enseignera ce que vous aurez à dire. C'est difficile de sortir de son cadre, de sortir de ce qu'on s'était bâti avec sa petite religiosité, entre guillemets, ses petits rites, ses petites règles auxquelles on obéissait et on s'attachait une bonne conscience, et en fait de rentrer dans cette dimension de l'esprit. Mais pourtant, c'est ce que Dieu veut, c'est ce que Jésus veut, c'est ce que Paul nous invite à faire. Rentrons dans la vie de l'esprit. Il n'y a pas que la peur, il y a aussi l'ego, l'orgueil. Parce que finalement, la loi de l'esprit, elle rend gloire uniquement à Dieu. puisque je te dis de faire ça, tu fais ça, tu obéis, et c'est mon nom, puisque ça apporte la vie, c'est mon nom qui est glorifié derrière tout ça. Alors que la loi de la chair, en fait, souvent, elle sert à nourrir notre ego. Voilà, on s'attache une bonne conscience, on dit « moi je suis comme ça, moi je fais ça, moi je jeûne deux fois par jour, moi je fais ci, moi je fais ça », on revendique. Et en fait, ça crée des querelles, des jalousies, de la compétition, de la comparaison. Et en fait, l'orgueil, l'ego, est une vraie barrière en fait à ce que le greffon Jésus, le greffon de l'esprit, pousse en nous. Et puis la peur, l'ego, et puis l'esprit religieux, le contrôle, les traditions, les faux raisonnements, les jugements. Vous savez que des fois, la loi de l'esprit, en fait, peut aller même au-delà de la morale, de ce qu'on juge comme étant bon, comme étant bien ou mal. En fait, on est sorti de la loi de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On est rentré dans l'arbre de la vie, en fait, par le sacrifice de Jésus à la croix. Et par exemple, je donne l'exemple, Paul a lutté, quand il s'est converti, il a lutté, et on le voit dans les épîtres, il a lutté contre l'esprit religieux, la circoncision notamment, il a lutté contre ça. C'était des règles qui étaient établies, c'était des lois qui avaient été données par Dieu à Moïse, c'était des lois qui étaient écrites dans la Torah, c'était des lois qui venaient de Dieu. Mais en fait, la loi de l'esprit est excellente, est plus forte et plus grande, et elle est venue pour nous affranchir de la loi de la chair. Donc en fait, la loi de Moïse n'a plus lieu d'être en fait. Et souvent en fait, on reste attaché à cette loi de Moïse. Et donc, c'est un exemple, Paul a lutté contre la circoncision. Mais dans l'Ancien Testament, en fait, des hommes et des femmes qui vivaient sous la loi de Moïse, mais qui étaient à des moments onctionnés par la loi du Saint-Esprit, même si la loi de l'Esprit n'habitait pas en eux, puisque Jésus n'était pas encore monté sur la croix, mais ponctuellement, l'Esprit de Dieu les saisissait et leur faisait faire des choses conduites sous la loi de l'Esprit. Par exemple, je pense à Rahab la Cananéenne qui habite à Jéricho. En fait, elle a hébergé deux espions de Josué. Et puis quand les soldats de la ville en ont entendu parler, ils sont arrivés. Et oui, qui tu caches? Où sont-ils? Et elle a dit non, ils sont plus là, ils sont partis, alors qu'ils étaient cachés sur sa terrasse, nous dit le texte. Donc en fait, Rahab a menti, tout simplement. Or, la loi dit, tu ne mentiras point. Donc, si on l'applique stricto, Rahab a péché. Mais Rahab n'a pas péché parce qu'elle a menti, conduite par l'Esprit de Dieu. Parce que la conséquence, ça a été que les espions ont pu faire le rapport. Ça a été la conquête du pays de Canaan. Ça a été la porte d'entrée pour conquérir le pays de Canaan. Et Rahab a été préservée, sa famille, elle et sa famille, est restée en vie alors que tout Jéricho a été massacré. Ça a produit la vie. Et des fois, c'est contraire à notre loi humaine, à notre morale humaine, et même à la loi de Moïse. C'est pour ça que Paul dit, vous avez été affranchis de la loi du péché et de la mort, pour rentrer dans une loi plus excellente, la loi selon l'Esprit. Je pense aussi, j'ai plein d'autres exemples, hein. Je pense à David. Est-ce que David a tué quelqu'un? Il a tué qui? Il a tué Goliath. Amen. Il a tué Goliath, pourtant la loi disait « tu ne tueras point ». Mais pourquoi il a tué? Il a tué parce qu'il était conduit par la loi de l'esprit à ce moment-là, pour un but précis, un but qui donne gloire à Dieu, un but qui favorise l'action de Dieu. Après ce combat, les Philistins ont laissé tranquille Israël. Quand il y a un but spirituel, en fait, Dieu va te faire faire des choses complètement folles. Et en fait, on est tellement attaché à la morale, nous Français, enfin nous humains, et nous Français encore plus particulièrement, et à la loi de Moïse dans laquelle on a été éduqués des fois, tout ça, que c'est difficile de faire grandir le greffon Jésus en nous. C'est difficile de faire grandir la vie de Christ en nous. Voilà ce que j'avais à vous partager, frères et sœurs. C'est des choses basiques, comme je dis, c'est fondamental, mais c'est tellement puissant. Et je nous invite ce matin à grandir dans la vie de l'Esprit, à laisser grandir le greffon Jésus, à être des hommes et des femmes à chimérisme 100% pour Jésus, pour le Saint-Esprit, pour la vie de l'Esprit en nous. Et quand tu dis « je ne suis pas capable d'eux », tu te places sous la loi de la chair. Même si humainement tu as raison, tu n'es capable de rien. Mais en disant ça, tu ne fais pas confiance à ce que Dieu a placé en toi, la loi de l'esprit. Et en faisant cela, c'est une offense, je le dis haut et fort, c'est une offense au plan divin de Dieu dans ta vie. Dieu avait confié à Adam et Ève la gestion, l'intendance du jardin d'Éden par le sacrifice de Christ à la croix et par la loi de l'Esprit qui habite en nous aujourd'hui. Dieu nous confie, à nous son peuple, la gestion et l'intendance du monde qui nous entoure. Amen. Et n'oublions jamais que Dieu regarde au cœur, avant tout à la faim et à la soif de chacun. Dans Apocalypse, au chapitre 21, au verset 7, il est dit « À celui qui a soif, à celui qui a faim, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. » Amen. Frères et sœurs, ce matin, le Seigneur nous encourage à développer cette vie de l'Esprit. Amen. À faire abstraction de la loi qui, de pesanteur qui nous cloue au sol, la loi des principes, la loi de la comparaison, la loi des jugements, la loi du mérite, du devoir, et à nous élever vers cette loi de portance, la loi de l'Esprit qui nous dit « Obéis, obéis à ma voix, obéis à ma voix ». Le Seigneur a dit « Donne-nous, le Seigneur a dit « Voilà comment vous devez prier, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Déjà, il insiste deux fois sur le quotidien. Donne-nous aujourd'hui, notre pain quotidien. Donc ça veut dire que c'est tous les jours, c'est un renouvellement de tous les jours. Et c'est pour ça que la loi de l'Esprit est gravée dans nos cœurs et non plus gravée sur des lettres, sur des écrits. Parce qu'elle est renouvelée dans nos cœurs chaque jour. Chaque jour. Et quand il dit « Donne-nous notre pain quotidien », on peut l'interpréter comme un pain pour se nourrir. Mais au-delà de ça, il y a, dans le texte grec, il y a une portée vers « Donne-nous notre soif de toi, notre mission de tous les jours, notre interrogation à mieux te connaître, à comment mieux te connaître, pour avancer avec toi, pour faire grandir le greffon Jésus en nous. » Amen. Soyez bénis, frères et sœurs, et que la vie de Dieu nous anime, tout simplement. Amen.